Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
En Terre Sainte, l'occupation humilie, enferme et pousse les Palestiniens au désespoir, alors qu'elle contraint les Israéliens à s'imposer uniquement par la force. 4 associations chrétiennes interpellent la France et l'Europe. Vous entendrez le président du Secours catholique. Vous entendrez également dans cette émission le curé de la cathédrale de Bamako. Il se dit soulagé par l'intervention française au Mali, mais la situation des déplacés est dramatique. Quant au Vietnam, il souffle le chaud et le froid dans ses rapports avec l'Église catholique. Quelques jours après la condamnation d'un groupe de jeunes activistes catholiques, le secrétaire général du Parti communiste sera reçu par le pape mardi, une exception porteuse d'espoir. Les chrétiens français sont invités à agir pour plus de justice en Palestine et Israël, à soutenir ceux qui œuvrent sur place et à interpeller les décideurs. Une brochure intitulée « Le défi de la paix » a été présentée en conférence de presse ce lundi matin à Paris. Le CCFD Terre solidaire, Justice et Paix, Pax Christi France et le Secours catholique déplorent l'impasse actuelle et dénoncent les graves violations du droit international et du droit humanitaire perpétrées au détriment des Palestiniens. Or, la France et l'Europe ont une responsabilité passée et présente dans l'avenir des deux peuples. Les promoteurs de cette initiative estiment qu'elles n'ont pas utilisé tous les outils diplomatiques dont elles disposent pour faire respecter le droit international dont elles sont pourtant garantes. Les explications du président du Secours catholique François Soulages, interrogé par Xavier Sartre.
Le droit international, c'est-à-dire le respect de la justice à travers les décisions du droit international, ne sont pas respectées actuellement sur le territoire de la Palestine. Et nous avons fait une série de repères historiques qui montrent que depuis la décision du plan de partage par les Nations Unies en 1947, aucune des décisions internationales n'a été respectée par l'État d'Israël. Et donc lorsqu'on parle de justice, c'est d'abord rendre justice au peuple, c'est-à-dire au peuple palestinien, pour les droits qui lui ont été reconnus par les institutions internationales. Donc la justice, c'est d'abord le respect du droit international. Alors lorsque l'on regarde les cartes de l'implantation des Israéliens, nous constatons que avec la colonisation à la suite de la guerre de 67, les Palestiniens sont dans des petites enclaves à l'intérieur de la zone qui par ailleurs est occupée par les Israéliens. C'est-à-dire qu'on a créé les conditions pour qu'il ne puisse pas y avoir d'État palestinien, puisqu'il n'y a aujourd'hui aucune unité territoriale entre les différents lieux d'implantation. Mais il y a une deuxième difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le peuple israélien lui-même est complètement, imperméable à cette question palestinienne parce que ça a été traité comme une menace permanente pour l'implantation de l'État d'Israël. Et donc l'opinion publique israélienne pense que derrière un Palestinien, il y a forcément un terroriste. C'est-à-dire que la question du territoire palestinien n'est plus au cœur des préoccupations des Israéliens. Et ça, pour nous, c'est un vrai problème parce que il nous semble que de ce fait, Israël se met dans une impasse totale en ce qui concerne sa situation géopolitique dans le Moyen-Orient, puisqu'il est entouré de pays arabes, et que, en ne réglant pas la question palestinienne, il continue d'affaiblir sa position, ce qui l'oblige à avoir des dépenses militaires considérables et du coup de connaître des difficultés sociales, car le budget militaire prend une place trop importante dans l'ensemble politique israélien.
Quel est votre but avec notamment ce défi pour la paix ?
Notre but, c'est de montrer que s'il n'y a pas des concessions de part et d'autre, s'il n'y a pas de la part de l'État d'Israël, mais en même temps du peuple israélien, une prise de conscience que même pour eux, la paix est en danger permanent. Et du côté palestinien, montrer qu'il y a des acteurs qui jouent la carte de la paix et non pas la carte de la violence, on peut retrouver les chemins d'une négociation qui soit un peu plus tranquille. Donc notre idée aujourd'hui, c'est de montrer qu'il y a des personnes qui, reconnaissant la situation difficile de part et d'autre, sont d'abord des acteurs de paix. Et cela s'adresse d'abord aux communautés chrétiennes en France et derrière les communautés chrétiennes à nos propres gouvernements.
Donc, si je comprends bien, c'est un appel que vous lancez au gouvernement français pour qu'il s'implique davantage dans la résolution du conflit israélo-palestinien.
Oui, absolument. On sait se faire créer des conditions qui rendent la solution des deux États, qui est celle que le pape Benoît XVI a répétée lorsqu'il est venu au Liban à propos de, à la fin du synode sur le Moyen-Orient pour en rendre les conclusions, il a rappelé l'idée des deux États. Donc, ce que nous disons, c'est que si on veut que la théorie des deux États puisse trouver une réalisation, il faut absolument aujourd'hui que s'arrêtent les efforts de colonisation et que donc on retrouve un accord international auquel je pense les Palestiniens sont globalement et majoritairement demandeurs parce qu'ils ont envie, comme tous les peuples, de vivre en paix.
Est-ce que vous pensez que les chrétiens qui sont également présents dans ces deux pays ont un rôle à jouer ?
Les chrétiens qui sont présents dans les deux pays ont un rôle à jouer comme intermédiaire. Lorsqu'on va à Bethléem, qu'on discute avec les chrétiens palestiniens, ils nous disent qu'en effet, eux peuvent être des intermédiaires entre des Palestiniens musulmans et des Juifs, parce que leur intérêt n'est ni d'un côté ni de l'autre. Et que donc le maintien de chrétiens sur la terre d'Israël est un facteur de paix pour l'avenir, parce qu'ils peuvent être des vecteurs de dialogue entre les deux communautés. Et c'est vrai aujourd'hui que les chrétiens palestiniens entrent plus facilement en contact avec les Israéliens que des musulmans palestiniens. Il y a moins de méfiance de la part des Israéliens quand ce sont des chrétiens qui s'adressent à eux et qui leur font comprendre que, oui, ils sont certes chrétiens, mais ils sont palestiniens. Et donc je pense que le départ de nombreux chrétiens de terre de Palestine n'est pas un bon signe. Et le maintien des chrétiens en Palestine est un facteur de paix.
C'était le président du Secours catholique, François Soulages. L'armée française et les soldats maliens sont entrés à Diabali et à Douenza, deux villes qui étaient sous le contrôle des islamistes, et poursuivent leur traque des combattants liés à Al-Qaïda. Si les experts craignent un nouvel Afghanistan sans fin pour la France dans les sables du Sahel, les populations locales, elles, sont soulagées. Les soldats ont été accueillis par des acclamations. À Bamako, le curé de la cathédrale chargé de la communication pour le diocèse salue lui aussi l'opération française. L'abbé Timothée Diallo a été interrogé par téléphone par Davide Maggiore. Prêtez l'oreille car les communications sont difficiles avec le Mali.
Si les Français n'étaient pas venus pour nous secourir, je pense que les islamistes seraient maintenant à Bamako. Avec l'arrivée des Français, les gens restent confiants. Ici à Bamako, la situation est normale, les gens circulent normalement. Donc, il n'y a pas de problème pour le moment. Mais il y a beaucoup de contrôles, il y a beaucoup de patrouilles, parce que on parle des infiltrations, et il y a certaines personnes, certains islamistes qui ont été arrêtés dans la ville par les forces de l'ordre. Beaucoup, beaucoup de gens ont fui le nord avec l'arrivée des islamistes, soit des musulmans comme des chrétiens. Pour les élèves étudiants, l'église a accueilli des élèves parce qu'il y avait l'école catholique à Diao. Donc, les élèves sont venus sur Bamako et les écoles catholiques de Bamako les a accueillis. Par rapport à la sécurité alimentaire, donc l'Église, on a fait des recensements au niveau des quartiers et a apporté un peu de riz à tous les déplacés qui ont été recensés dans les quartiers. Donc nous, on demande la prière. Nous traversons une situation très difficile. Bien sûr, au niveau de l'Église ici, depuis que la situation s'est empirée, dans nos églises, on prie tous les jours pour la paix et des neuvaines aussi sont organisées pour que la paix revienne.
L'abbé Timothée Diallo, curé de la cathédrale de Bamako. Ce mardi, Benoît XVI recevra en audience le secrétaire général du Parti communiste vietnamien. Accompagné d'une délégation de haut rang, Nguyen Phu Trong effectue actuellement une visite d'État en Italie dans le cadre d'une tournée en Europe qu'il a déjà conduit en Belgique et au siège de l'Union européenne et qui s'achèvera au Royaume-Uni. C'est la première visite d'un leader du Parti communiste vietnamien en Europe de l'Ouest depuis de nombreuses années. Mais surtout, son audience au Vatican est exceptionnelle. Un fait positifs qui prouvent que le dialogue progresse entre Hanoï et le Saint-Siège. Thomas Chabol.
Le Saint-Siège n'entretient toujours pas de relations diplomatiques avec le Vietnam, mais il est représenté auprès des autorités de Hanoï par un envoyé spécial non résident. Les rapports bilatéraux se développent, mais paradoxalement, sur place, la situation des chrétiens reste très difficile. D'autant que la jeunesse militante chrétienne, qui affiche une foi très ferme, est aujourd'hui à la pointe de la contestation contre le régime sur Internet et dans la rue. Blogueurs ou défenseurs des droits de l'homme, les activistes catholiques dénoncent les expropriations, la corruption et les injustices. Résultat, la répression visant à briser toute opposition politique a récemment connu une brusque escalade. Au début du mois, le pouvoir a frappé fort. 14 jeunes chrétiens ont été condamnés à de lourdes peines. La sentence a d'ailleurs suscité une vague d'indignation. L'ambassade des États-Unis au Vietnam et le ministère français des Affaires étrangères ont exprimé leur mécontentement. Quelques jours plus tôt, un avocat catholique très connu avait été arrêté sur des allégations de fraude fiscale, un prétexte pour le faire taire. Il n'est donc pas toujours facile de saisir la portée des événements qui se succèdent sans se ressembler. Il y a quelques mois, une délégation vaticane chargée de recueillir des témoignages en vue de la béatification du cardinal Van Thuan n'avait pas pu se rendre au Vietnam, le bureau des affaires religieuses ne lui ayant pas accordé de visa d'entrée. En revanche, en décembre dernier, pour la première fois, la Fédération des conférences épiscopales d'Asie a pu tenir sa 10e assemblée plénière au Vietnam avec la participation de 122 cardinaux, évêques et délégués. Le vice-ministre de l'Intérieur s'en était publiquement réjoui.
En Irlande, l'épiscopat s'est félicité de la première rencontre bilatérale entre le Premier ministre Enda Kenny et une délégation d'évêques catholiques vendredi soir à Dublin. Les entretiens qui ont duré 3 heures ont permis de faire le point sur les rapports entre l'Église et l'État qui ont connu une période tumultueuse suite à l'avalanche des scandales sexuels dans l'Église. Ils ont également permis de passer en revue les questions sensibles comme la protection de la vie, alors que le gouvernement irlandais semble décidé à légaliser l'avortement lorsque la vie de la mère est en danger. Parmi les autres thèmes abordés, la protection des mineurs et l'augmentation alarmante du nombre des suicides, la crise économique et la justice sociale, le regain des tensions intercommunautaires en Irlande du Nord et la présidence irlandaise de l'Union européenne, sans oublier la question des rapports diplomatiques avec le Saint-Siège. En juillet 2011, en pleine séance parlementaire, le Premier ministre irlandais avait prononcé un sévère réquisitoire contre le Vatican, une première au pays de Saint-Patrick. Le dialogue avec la hiérarchie catholique a donc été renoué. Dans un communiqué, la conférence des évêques fait état d'un climat cordial et constructif et souhaite que puissent établir des relations respectueuses et transparentes. Asphyxié par les affaires de pédophilie qui ont miné sa crédibilité et ébranlé la foi des catholiques, l'Église d'Irlande a entrepris un processus de rénovation, mais les tensions sont fortes au sein même du clergé. De nombreux prêtres ont adhéré à une association dissidente et critiquent ouvertement la hiérarchie. La France et l'Allemagne célèbrent le cinquantenaire de leur réconciliation. Ces deux pays, de 1870 à 1945, se sont affrontés au cours de 3 conflits, dont 2 mondiaux, avec leur lot de morts, de blessés, d'humiliations et d'occupations. Il y a quelques jours, les épiscopats allemands et français ont publié une déclaration dans laquelle, outre l'hommage rendu à cet acte fondateur, ils rappellent que l'amitié entre les deux pays et les deux peuples est aujourd'hui plus que jamais décisive pour surmonter la crise actuelle et façonner l'avenir de l'Europe. Ce texte signé par le cardinal XXIII, président de la Conférence des évêques de France, et par Mgr Zollitsch, président de la Conférence des évêques allemands, souligne que l'amitié franco-allemande a toujours été un service à l'Europe. Cette réconciliation qui paraissait impossible, dans le fossé de victimes et de souvenirs douloureux séparant la France et l'Allemagne était grand, nous la devons à 2 hommes, le président français Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer. Ils l'ont scellé par le traité de l'Élysée, mettant l'accent sur 3 domaines de collaboration prioritaires. La gouvernance et la politique étrangère, la défense et l'aide au développement, l'éducation et la culture. Écoutez Klaus-Peter Sick, historien allemand au centre Marc Bloch à Berlin.
C'est le point d'aboutissement d'une réconciliation aussi entre deux hommes qui, quand même, il ne faut pas le nier, ont pris du temps, n'est-ce pas, entre 45 et 63 pour se rapprocher. Donc c'est un point d'aboutissement déjà, disons, d'une réconciliation précédente qui a commencé, ça aussi peut-être on ne le souligne pas assez, directement en 45. Il y a aussi eu le plan Schuman en 1950, donc il y a toute une préhistoire qu'il faut souligner, et le traité de l'Élysée est aussi le résultat de cette préhistoire sans laquelle il n'aurait sans doute pas été possible.
Quelles sont les caractéristiques de ce traité de l'Élysée? Quelles sont les grandes lignes de cette réconciliation franco-allemande à l'époque?
Le traité est surtout un traité politique. Il est beaucoup moins économique et beaucoup moins culturel qu'on ne le pense, mais le grand résultat, c'est vraiment un symbole de la réconciliation, et c'est qu'il a apporté très concrètement un calendrier de consultation politique très précise sur ce plan entre les sommets politiques des deux États. Le grand résultat, finalement, c'est que les deux côtés acceptent l'importance d'un dialogue ininterrompu et régulier, qui d'ailleurs n'a jamais été interrompu malgré toutes les difficultés depuis.
C'est une réconciliation entre partenaires égaux ou bien il y a une certaine disparité entre les deux partenaires de cette réconciliation?
Aujourd'hui, où on parle trop d'un leadership allemand, il faut se souvenir que l'Allemagne à l'époque était divisée et que l'Allemagne fédérale faisait à peine son entrée sur la scène internationale. Qu'elle avait une armée seulement depuis 1955, à ce moment-là, la France est le partenaire fort, et pas l'Allemagne. Les relations finalement entre l'Allemagne fédérale et la France restent tendues jusqu'au départ de Gaulle en 1969, et c'est seulement à partir des années 1980, à partir de Mitterrand, au fond, où ce qui a été contenu dans le traité de l'Élysée prend vraiment de l'ampleur. C'est seulement depuis lors où il y a véritablement la formation de liens profonds entre les deux. Donc c'était un traité pionnier, mais qui n'a pas été suivi immédiatement par les effets qu'on lui prête. C'est plutôt un point de départ presque qu'un point d'aboutissement.
L'historien allemand Klaus-Peter Sick était interrogé par Olivier Tosserie. Le chef de l'État français recevra, à une date qui n'est pas encore arrêtée, les organisateurs de la Manif pour tous, qui a rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes le 13 janvier à Paris. L'Élysée avait jugé consistante la manifestation du 13, mais n'avait pas laissé entendre que le président Hollande, occupé par la situation au Mali puis en Algérie, était disposé à recevoir les opposants au projet de loi sur le mariage entre personnes de même sexe. Ces derniers s'étaient sentis humiliés. En attendant, les opposants maintiennent des rassemblements et des débats en région, selon un calendrier qui démarre le samedi 26 à Lyon avec la tenue d'États généraux de l'enfant. Ce type de manifestation devrait être décliné dans toute la France au cours du mois de février. En Éthiopie, la plus importante communauté orthodoxe d'Afrique suit le calendrier julien et le Timkat, c'est-à-dire l'épiphanie, vient d'y être célébrée dans les sites majeurs du christianisme éthiopien, au passé extrêmement riche. Des processions hautes en couleurs, dans une ambiance de prière, de chant et de danse. C'est l'événement le plus spectaculaire de l'année qui dure 3 jours et 3 nuits et attire un nombre croissant de touristes. Les participants commémorent à la fois le baptême du Christ et le miracle des noces de Cana. Emmanuel Lerounega a suivi pendant 24 heures à Addis Abeba le premier jour des célébrations. Reportage.
Il est 15 heures et les célébrations de Timkat débutent aux abords de l'église Ourael d'Addis Abeba. Les fidèles sont venus assister à la sortie des tabots. Au centre d'une lente procession, ces répliques sacrées des tables de loi quittent l'enceinte de l'église pour la seule fois de l'année. La nuit est tombée lorsque les participants arrivent à destination. Sur une esplanade, des tentes ont été dressées. Elles accueillent les tabots et serviront à célébrer la messe. Les croyants dormiront sur le site pour prier et veiller les reliques. 7 heures du matin. Rassemblés autour d'un bassin, les prêtres achèvent la cérémonie de bénédiction de l'eau. Une foule imposante les encercle. L'excitation est palpable. Le religieux plonge sa croix dans le bassin. C'est le moment que la foule attendait. Perchés sur des podiums de bois, les prêtres arrosent les participants d'eau bénite. Cris de joie et euphorie pour accueillir cette cérémonie qui symbolise le renouveau du monde. Addis Abeba, Emmanuel Lerounega, Radio Vatican.
Et après une nuit de célébration samedi et une dernière nuit de prière, les tabots ont pris le chemin du retour. Et au Vatican, comme le veut la tradition, en ce 21 janvier, mémoire liturgique de Sainte Agnès, 2 agneaux bénis ont été présentés à Benoît XVI. Leur laine sera utilisée pour tisser les palliums, ornement liturgique d'honneur et de juridiction qui symbolise le lien spécial unissant les archevêques au siège apostolique. Cette bande de laine blanche qui se porte sur la chasuble est ornée de 6 croix de soie noire. Le pape la remet aux nouveaux archevêques métropolitains le 29 juin, solennité des Saint-Pierre et Paul. Ces agneaux agneaux sont offerts au pape par les chanoines réguliers du Latran. Leur élevage est confié aux religieuses d'un couvent romain. Dans l'iconographie traditionnelle, Sainte Agnès, martyre romaine, morte à l'âge de 13 ans, est souvent représentée tenant un agneau dans ses bras. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur Facebook.